Je suis en compagnie de Tristan Garcia, nous parlons de sept romans qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Bonsoir Tristan Garcia.
Bonsoir.
Je voudrais t'interroger sur tes rapports à la fiction, à l'imaginaire, parce qu'il me semble que dans ce livre, mais c'était déjà très présent dans tes précédents romans, je pense au corps de l'aide de Brosseur, aux mémoires de la jungle, tu fais une utilisation de la fiction à des fins philosophiques. Tu es philosophe de formation, tu as déjà publié « Forme et objet, un traité des choses », tu es proche notamment de Quentin Meillassou, et j'ai lu ton texte 7 en ayant ces données en tête. Et j'ai l'impression que tu utilises la fiction non seulement à des fins philosophiques, mais encore plus à des fins métaphysiques. Quelle était ton ambition au départ de ce livre? Qu'est-ce que tu avais en tête?
Le livre est en effet en partie expérimental, au sens où il s'agit d'expériences, mais pas strictement d'expériences philosophiques, pas d'expériences de pensée. Ce sont des expériences de vie. Donc c'est plus déterminé que de la philosophie ou de la métaphysique, parce que c'est incorporé avec des personnages et avec des vies. D'une manière générale, la philosophie que j'essaye de faire est du côté de la spéculation, c'est-à-dire d'une forme d'accélération de la pensée qui va vers le fait de dépouiller les choses du monde de leur détermination, d'aller le plus rapidement possible, comme s'il fallait enlever des choses leur qualité pour aller vers une métaphysique de la chose nue. Ce qui m'intéresse dans la fiction, c'est la possibilité de continuer à faire des expériences spéculatives, mais non plus avec des choses nues, mais avec des vies. Et tout particulièrement, ce qui m'intéressait dans cette, c'était le fait de pouvoir recommencer des vies. Pour faire des expériences, il faut pouvoir comparer. On dit parfois, par exemple, une riposte célèbre à l'idée selon laquelle philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est que pour apprendre une expérience, il faut au moins deux expériences répétées, que la mort est par essence ce de quoi on ne peut pas faire l'expérience, puisque il faudrait au moins revivre une fois pour pouvoir faire une expérience, c'est-à-dire pour comparer deux vies possibles et deux morts possibles. Et au fond, cette vient de là, c'est-à-dire de l'idée que de plus en plus, la fiction, pour moi, a pour rôle le fait de me permettre de considérer des expériences de vie, c'est-à-dire des expériences extrêmement concrètes et des expériences avec des vies, c'est-à-dire ce qui peut se passer entre la naissance et la mort et qui concerne des êtres finis. Et en l'occurrence, ce qui m'intéressait, c'était de faire des expériences de croyances. C'est-à-dire qu'est-ce que des croyances folles, des croyances irrationnelles, des croyances qui ne sont pas les miennes, font à des vies, et de quelle manière je peux, par la fiction, comparer des vies et comparer les effets de certaines croyances sur des vies.
Alors, il y a des croyances qui peuvent être de type politique, par exemple. Si nous prenons un des textes qui s'appelle « La révolution permanente », une femme va en faire l'expérience, elle a une soixantaine d'années, elle a passé toute sa vie à militer politiquement plutôt à l'extrême gauche, enfin au parti communiste.
Elle est plutôt dans un parti trotskiste en fait, qu'au PC. Elle est à la Ligue, l'ancienne LCR probablement.
Et elle va en être exclue, notamment par son ancien mari, parce qu'elle ne se trouve plus en phase. Jusqu'ici, on est encore dans une sorte de réalisme. Seulement, tu vas introduire un élément fantastique qui va la faire vivre dans des sortes de mondes parallèles où, notamment un, où la société française a vécu une révolution suite à une sorte d'assassinat lors d'une manifestation d'un de ses amis plus ou moins amoureux. Et à la suite de ça, le pays aurait basculé à la fin des années 70 dans une autre forme de politique, avec ses idées politiques mis en œuvre. Et elle va être confrontée à vivre dans ce monde-là et à retourner dans l'ancien. Elle va être confrontée à plusieurs mondes parallèles qui va mettre en jeu ses croyances politiques.
En effet, ce qui m'intéresse, par mon éducation familiale notamment, j'ai souvent croisé des militants qui ont fait l'épreuve depuis les années 60 d'un sentiment de défaite. Un sentiment de défaite parce que la révolution n'a pas eu lieu. Et ça m'intéresse d'essayer de rendre compte de ce qui se passe pour un esprit, pour une vie qui a cru, dont toute l'existence a été orientée par la lutte finale et par la possibilité d'une révolution qui casse l'histoire du monde en deux, qui justifie l'engagement, et d'essayer de comprendre ce que peut faire une vie la révélation du fait que ça n'a pas eu lieu, ça n'aura pas lieu. En tout cas, ça n'aura pas lieu de mon vivant. Et le personnage fait une première expérience qui est celle de s'apercevoir que ça n'a pas eu lieu dans sa vie, mais ça a eu lieu dans une autre vie, dans un autre monde. C'est plutôt une expérience rassurante, rassurante et en même temps mélancolique, c'est-à-dire la révolution n'était pas pour moi, elle était pour un autre moi qui se trouve dans un autre monde. Malheureusement, j'ai été dans celui des mondes possibles où la révolution n'aurait pas lieu de mon vivant. Et puis il y a une deuxième, il y a un renversement, il y a une deuxième expérience qui est que le personnage s'aperçoit qu'elle peut avoir accès à son monde rêvé, c'est-à-dire que le monde dont elle a rêvé toute sa vie, le monde où la révolution aurait lieu, elle y a accès. Peut-être qu'elle le rêve et peut-être qu'elle peut entrer dans ce monde qu'elle rêve. Mais il y a une sorte de proposition de contrepartie à ça, qui est qu'il est possible qu'en fait, elle soit dans le rêve du monde dont elle rêve. C'est-à-dire que la réalité tout entière soit le rêve d'un personnage contre-révolutionnaire, triste, malheureux, dans le monde où la révolution a eu lieu. Et là, je voulais donner corps, en fait, à ce qui me semble être... Je vais donner une image pour essayer de rendre compte du sentiment qui m'a toujours semblé celui de la défaite politique, qui est que celui qui vit une vraie défaite politique a l'impression de vivre dans le rêve de l'ennemi. Le communiste qui vit la défaite du communisme a l'impression que la réalité est le rêve d'un anticommuniste. Et cette impression qu'on peut vivre la réalité comme étant le rêve, pour soi le cauchemar, de l'ennemi. L'ennemi l'a emporté dans un autre monde, et il rêve le monde dans lequel on se trouve. Et concrètement, par un système fantastique qui est un peu toujours le même de nouvelle en nouvelle, qui est généralement un système de contrepartie entre le réel et le possible, ce qui est gagné d'une main et enlevé de l'autre, ce qui est gagné dans un monde et perdu dans un autre monde, comme s'il y avait une sorte de plan de référence et que tout ce qui était en plus par rapport à ce plan, tout ce qui était en plein par rapport à ce plan était en creux ailleurs. Tout ce qui est gagné ici est perdu ailleurs, mais aussi tout ce qui est perdu ici est peut-être gagné ailleurs. Et avec une forme fantastique, je voudrais réussir dans la fiction à aller jusqu'au sentiment, c'est-à-dire à rendre compte d'un sentiment dans le réel, le sentiment de la défaite politique, le sentiment de la désillusion, le sentiment de la perte de croyance, des sentiments extrêmement concrets, mais en rendre compte par la construction, par une construction qui passe par une forme fantastique qui est pénétrée d'une hypothèse métaphysique en général.
Autre traitement, autre croyance, la croyance religieuse, que tu transformes en croyance aux extraterrestres, dans ce texte qui s'appelle « L'existence des extraterrestres », où on va suivre... Un petit groupe de personnages, dont un qui travaille dans le monde de la finance et qui, dans ses loisirs, est dans un réseau de relations de personnes qui cherchent à essayer de prouver qu'il y a eu des rencontres extraterrestres. Donc, on va dire, il est confronté à des groupes d'ufologues. Et tu établis, tu échafaudes quelque chose qui s'appellerait l'hypothèse, donc une croyance absolue, soit il y a des extraterrestres, soit il n'y en a pas, et ce groupe, on va vite s'apercevoir. Donc là, on ne tombe pas trop dans le fantastique, parce que tu en fais presque une épopée d'un serial killer. Tu voulais tester quoi avec cette hypothèse extraterrestre, alors qu'on s'aperçoit que ça devient une sorte de croyance religieuse, ou que ces personnages en font une croyance religieuse?
C'est l'hypothèse qui est censée avoir été établie, énoncée par les parents des personnages, qui vivent dans un moment de désillusion, qui est un moment presque politique de désillusion de l'ufologie, disons passer une sorte d'âge d'or, un creux dans les années 80, il y a une sorte de désertion, et pour essayer de continuer à croire, les parents échafaudent une hypothèse qui leur permet de rendre compte de disparitions mystérieuses. Leur idée est que les disparitions, les enlèvements en général, ont lieu à partir du moment où des gens qui croyaient ne croient plus. C'est-à-dire que la disparition serait à chaque fois l'anéantissement par les extraterrestres, comme une sorte de pouvoir divin, de ceux qui ont commencé à croire et qui ne croient plus. De sorte que l'hypothèse est la suivante, croire aux extraterrestres est une forme de croyance religieuse qui consiste à s'engager à simplement commencer à croire, de sorte que croire, c'est simplement ouvrir la possibilité un jour de ne plus croire. C'est-à-dire la foi n'est rien d'autre que l'ouverture de la possibilité de l'apostasie. Une vie consistant dès lors soit à entretenir la fidélité dans la croyance, c'est-à-dire à ne pas disparaître, à rester vivant et à exister en renouvelant jour après jour, minute après minute, seconde après seconde la croyance, sans aucune confirmation positive. C'est-à-dire que les extraterrestres ne se manifesteront jamais positivement. L'existence des extraterrestres, non plus que l'existence de Dieu, n'aura jamais de manifestation positive. En revanche, elle peut avoir une manifestation négative qui est que celui qui perd la foi est détruit. Alors dans la nouvelle, il est détruit littéralement, disparaît du monde. Donc la seule preuve est négative. Et plus généralement, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de concevoir la foi religieuse comme, je te disais un peu avant quand on discutait, au fond, l'envers du pari de Pascal. Quand Pascal formule le pari, il dit, il propose aux libertins de parier parce que, après tout, dit-il, il n'y a rien à perdre et tout à gagner. C'est un pari qui est un pari de mauvaise foi chez Pascal. Alors que le pari qui m'intéresse, c'est le pari où il y a tout à perdre et rien à gagner. La foi est ce qui promet que tu as tout à perdre parce que tu gagnes un sens du monde que tu ne peux que perdre. Tu ne peux que perdre en renonçant à ta foi, en devenant apostat. Et tu n'as rien à gagner parce qu'il n'y aura jamais de confirmation positive. En t'engageant dans la foi, tu t'engages dans quelque chose dont il ne peut y avoir qu'une confirmation négative, qui est la destruction du sens que tu essayes d'embrasser, du sens du monde. Et du coup, dans cette nouvelle, comme dans les autres, au fond, j'essaye de trouver une forme fictionnelle, qui est à la fois une image et une idée, incarnée dans des personnages, pour rendre compte le plus équitablement possible de ce que c'est que la croyance humaine, de la part de quelqu'un comme moi qui n'est absolument pas croyant, qui n'a pas de croyance politique, qui n'a pas de croyance ufologique, qui n'a pas de croyance religieuse, qui est confronté à une réalité contemporaine où les croyances redeviennent un élément important du paysage intellectuel. Et j'essaye de me rapporter honnêtement et équitablement à la croyance, sans humilier les croyances, de quelque sorte qu'elles soient, croyances ufologiques, croyances religieuses, croyances politiques, sans les confirmer, sans les classer, sans être pour autant relativiste, sans être joyeux du fait qu'il y ait des croyances, disant c'est magnifique, que les hommes croient, puis qu'ils croient à n'importe quoi, croyances sans objet, etc. Et d'essayer de comprendre la croyance et de comprendre le prix à payer pour la croyance. C'est-à-dire de comprendre ce phénomène anthropologique, et j'essaie de le comprendre parce qu'il me semble être le seul outil dont je dispose, qui est la fiction.
Et alors, sauf que là, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un transcendantal,
oui.
C'est des êtres qui peuvent être matériels. Rien de plus matériel qu'un extraterrestre, si on en rencontre, ou si oui. L'extraterrestre existe. Il y a un retournement là.
Ce qui m'intéressait, c'était d'aboutir à la scène finale, et d'aboutir à l'idée que les extraterrestres puissent apparaître positivement, mais qu'ils se voient dans les yeux du personnage, qui est un enfant, et que c'est Dieu que sont les extraterrestres, mais qui sont des dieux matériels, absolument matériels, s'autodétruisent parce qu'ils s'en remettent à la créature, et que découvrant que la créature qui les voit n'y croit pas, puisque le personnage les voit mais ne parvient pas à y croire, ne parvient plus à y croire parce qu'il est en train de sortir de l'enfance, et étant confronté à un témoin, le seul témoin possible de l'apparition des extraterrestres, refusant d'y croire, ils n'ont pas d'autre choix que de s'effacer, de s'autodétruire. Et les dieux n'ont pas d'autre choix, les dieux matériels n'ont pas d'autre choix que de mourir, que de disparaître, que de s'anéantir, parce que le seul témoin possible refuse d'y croire. Et donc la manifestation matérielle m'intéressait pour arriver à cette dernière scène, qui était l'idée d'une autodestruction des dieux concrets que sont les extraterrestres, parce qu'ils s'en remettent totalement à un témoin, et que le seul témoin ne peut pas les rassurer sur leur existence, et que du coup, cessant de croire en eux-mêmes, les dieux disparaissent, et on rejoue l'idée de la mort des dieux.
Dans cette histoire de mort et de rejouer sa vie notamment, il y a ce long roman, la septième, qui prend, on va dire, une bonne partie, enfin pas un peu moins de la moitié de ton livre, Tristan Garcia. C'est un homme qui va vivre sept fois sa vie. À chaque fois qu'il meurt, il revient au moment de sa naissance. Et c'est reparti en tout cas le même début de vie. Ce qui va être modifié, c'est lui, son comportement, il va s'apercevoir qu'il va pouvoir modifier les actions du monde. Alors dans la première vie, il rencontre quelqu'un qui va lui dire qu'il a un don, que c'est un élu, parce qu'il saigne abondamment du nez à l'âge de 7 ans, et il va suivre ce qui n'est pas un médecin, il va suivre cet
il
infirmier.
Il est interne au départ.
Voilà, interne, son infirmier. Il va le suivre, il va avoir des aventures. Quand il, au moment où il va mourir, hop, il revit une deuxième vie, et là, il a envie de vouloir transformer tout ce qui ne s'était pas forcément bien passé dans cette première vie. Il a envie de, notamment, sauver sa femme morte d'un cancer à l'âge de 50 ans, et il va tout faire pour maîtriser suffisamment les sciences, les données scientifiques, pour pouvoir la sauver. Donc il va énormément travailler le savoir, énormément travailler la connaissance pour être un grand, grand scientifique. Dans une autre vie, il va agir politiquement pour changer le monde. Dans une autre vie encore, il va être complètement blasé, il va en avoir marre. Là, tu confrontes le lecteur, tu nous confrontes à une vie qui revient toujours à son point de départ, à sa naissance, et qui essaie de transformer le monde, mais qui finalement, à la fin, en a marre, parce que c'est complètement épuisant de revivre sa vie, même si à chaque fois elle est différente, mais en tout cas l'enfance reste la même.
C'est en quelque sorte l'épreuve de l'éternel retour, mais avec une distinction qui est que tout revient à l'exception d'une conscience, qui est la conscience du narrateur. Et cette conscience est le seul témoin de sa propre évolution, c'est-à-dire qu'elle ne peut jamais se reposer sur le regard des autres pour confirmer le fait qu'elle continue de vivre. Donc on a une conscience, on a un monde qui revient, qui est engagé dans une boucle et qui revient à son point de départ, qui est le moment de la naissance du narrateur. Et on a une sorte d'île d'insularité absolue qui est la conscience de ce narrateur, qui est la seule à continuer de progresser. Et l'idée est, que peut faire une subjectivité à qui est donnée l'éternité, l'immortalité pour se développer, mais à qui est refusé le fait que cette éternité ou cette immortalité ait quelques conséquences que ce soit sur le monde. C'est-à-dire, au fond, c'est la réalisation ultime du fantasme d'immortalité, d'éternité, mais il y a un prix à payer pour ça, c'est que le sujet est le seul à la recevoir. C'est une immortalité ou une éternité qui n'est pas partagée. Le monde, lui, n'est pas éternel, le monde se répète, revient. Et l'épreuve que traverse cette conscience, c'est qu'elle est donc obligée de rejouer sans cesse sa renaissance, son passage par l'enfance, par l'âge adulte, alors qu'elle est privée de la possibilité de diffuser son évolution et son accès à une plus grande sagesse. C'est-à-dire, il y a dans le sujet, dans la subjectivité, la possibilité de stade en stade d'acquérir une expérience, de monter en sagesse, mais cette sagesse est réservée à ce seul îlot de subjectivité et ne peut jamais se diffuser au-delà d'elle dans le monde. Et donc, de vie en vie, ce qui se passe, c'est que cette conscience, qui est la conscience du narrateur, au fond, expérimente tous les moyens possibles de diffuser dans le monde ce qu'elle éprouve, son expérience. Elle va essayer la science, la connaissance, mais sauf que cette connaissance s'avère être une impasse, puisqu'effectivement elle accumule de la connaissance, mais le monde revient au même. Elle essaye l'action politique, elle change le monde, effectivement le monde est changeable, pas du tout de rapport pessimiste, une révolution est possible, le monde est meilleur, et puis il meurt, il revient, le monde revient au même. Elle essaye le parcours religieux, c'est-à-dire le renoncement à l'action politique. D'accord, je ne peux pas changer le monde, j'ai compris que le monde allait de toute manière, tout ça allait revenir au même, mais au moins, ma conscience va pouvoir se transcender parce que je vais tellement monter en conscience que ça va bien finir à un moment par aboutir à quelque chose, un changement radical. Et la vie religieuse se réalise et retour au même. La vie religieuse laisse place à la vie esthétique, au fond, comme le stade esthétique chez Kierkegaard, c'est-à-dire, bon, bah, après tout, comme ça ne sert à rien, autant en profiter, et la vie de plaisir, ou la vie perverse même, etc., pourquoi pas, mais ça revient au même. Et donc, l'idée est de rendre fou la conscience devenue éternelle, et potentiellement, j'aimerais presque de rendre fou le lecteur en confrontant une conscience éternelle à une stricte répétition. Et cette stricte répétition, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle produit le choix éthique pur qui est « il faut vivre, le personnage ne peut pas mourir, donc il doit faire quelque chose, mais les conséquences de ses actes sont strictement égales. » C'est-à-dire qu'il est confronté à une inconséquence absolue. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était de produire cette expérience pour voir qu'est-ce que peut faire à une vie le fait de se confronter, non pas à l'absurdité, comme une sorte d'existentialisme adolescent, mais la stricte inconséquence, un retour au même si puissant qu'il est radicalement indifférent à la subjectivité. C'est-à-dire imaginer un monde qui se répète de telle sorte qu'il est mais absolument et radicalement indifférent à ce que peut le sujet. Et cette radicale indifférence, elle me permet, au fond, de faire une expérience qui, pour moi, a pour conséquence, au fond, d'imaginer presque de manière ludique que tous les types d'hommes sont des réalisations d'une quantième vie, d'une énième vie. Au fond, l'artiste, c'est celui qui en est à sa sixième. Au fond, le religieux, c'est celui qui en est à sa quatrième, etc. etc. Et donc, les vies, tout type d'homme, tout sens donné à une vie, le choix de la science, le choix de la religion, le choix de la politique, correspond à une étape. Mais à une étape qui, contrairement au schéma, comme dans, je parlais des stades chez Kierkegaard, ou stade dialectique de l'esprit, par exemple chez Hegel, ces stades sont toujours confirmés par le fait qu'il y a un aboutissement. C'est-à-dire que les stades sont cumulatifs et les vies sont ordonnées. La vie esthétique est moins que la vie éthique est moins que la vie religieuse chez Kierkegaard, et ça c'est possible parce qu'il y a un aboutissement. Et ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un échelonnement des vies possibles, comme ça, de la vie éthique, de la vie religieuse, de la vie politique, sans fin, sans aboutissement. Il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a pas de réconciliation, rien ne donne raison à une vie plutôt qu'à une autre, au bout du compte. Et pourtant, il faut bien en tenter une.
Parce que, avec cette nouvelle, avec ce personnage, tu testes aussi ses identités. C'est quelqu'un qui va jouer avec ses identités. Il y a l'identité du scientifique, ça va être la deuxième vie, dans laquelle il va brillamment réussir, il va être prix Nobel, effectivement, il va faire des découvertes fantastiques, puisqu'il aura voué sa vie à la science, et puis il avait déjà une vie avant. Dans d'autres vies, de se transformer en homme religieux, ça transforme forcément sa personnalité, ça transforme son identité. Tu joues avec les identités, il est toujours lui-même, il a toujours la capacité de ses mémoires, néanmoins, il ne revient pas semblable parce qu'il va pouvoir tenter des expériences sur sa personnalité aussi, puisqu'il voit bien que de vouloir transformer le monde est voué à un non-aboutissement.
Il oscille sans cesse entre l'expérience extérieure et l'expérience intérieure, entre la tentation de changer autour de lui quelque chose et le reflux et le fait, au fond, d'expérimenter quelque chose, en effet, sur son identité, sur son... Comme c'est au fond un personnage hypermnésique, qui a une conscience cumulative de siècles et de siècles, mais qui est confronté à un monde strictement amnésique, un monde qui ne garde aucune mémoire de ce qu'il fait, je voulais qu'il y ait une sorte de disjonction radicale, voilà, entre un monde sans mémoire et un sujet qui soit dépositaire d'une mémoire absolue. Et donc, qui se retrouve pris dans cette contradiction, et en train de faire des expériences sur soi ou des expériences sur le monde, mais avec ce souci, puisque tu le disais, ce sont des expériences philosophiques, avec ce souci de ne produire aucun ordre de justification, ultimement. C'est-à-dire que il y a des vies distinctes, il y a des vies qui aboutissent au fond au sens politique, d'autres vies qui aboutissent au sens religieux, d'autres vies qui aboutissent au sens esthétique, mais à aucun moment, même l'éternité réalisée, même l'immortalité donnée au personnage, ne peut donner raison à une vie plutôt qu'à une autre. Et il gagne cette immortalité strictement par hasard, et il la perd strictement par hasard. Et je voulais qu'il y ait un effet de contingence radicale, et qu'il n'y ait surtout pas de raison donnée à ça. Et de produire un dispositif sans raison, qui permette ces épreuves, ces expériences de vie, ces expériences d'identité.
Où l'identité va être en jeu. Parce que quelque chose aussi qui m'a frappé dans chacun de ces sept récits, il n'y a pas de vérité. Tous les personnages de ce livre ont affaire, à un moment donné, avec la fiction, avec l'invention fictionnelle, et ils ne sont plus dans une seule vérité tangible, indubitable. Ils ne sont pas dans une seule réalité, qui est toujours un élément fantastique.
Oui.
Mais il y en a plusieurs. Ils sont un peu à cheval. Est-ce que c'est ça aussi que tu voulais tester? C'est le fait que
ils sont confrontés à une absence patente de vérité et ils en font l'expérience dans leur vie.
Alors, peut-être plus qu'une absence de vérité, je dirais, ce qui m'intéresse, ce que j'essaye de tester, c'est une valeur égale de la vérité ou de la non-vérité. Une valeur égale, strictement égale, du réel ou de la fiction. Ce sont des personnages qui, généralement, considèrent comme... Un des personnages de l'existence des extraterrestres dit à un moment, au fond, je sais bien que la réalité existe, je suis pas non plus idiot, je suis pas borné, mais au fond, le problème de la réalité, c'est qu'elle a pas besoin de moi. Que j'y crois ou pas, elle est là. En revanche, ce qui m'intéresse dans la croyance, et ce qui m'intéresse dans la fiction, c'est que si j'y crois plus, peut-être que le possible, lui, disparaît. Peut-être, il n'est pas certain que le possible puisse tenir s'il n'y a pas au moins un sujet, s'il n'y a pas au moins quelqu'un pour le soutenir. Il faut une existence soutenue du possible, contrairement au réel. Et du coup, tous les personnages se retrouvent confrontés, non pas à une stricte absence de la vérité ou du réel, mais à une stricte équivalence du réel, qui est là, et du possible, de la fiction, ou même du mensonge, qui est une possibilité égale, au fond. Ils se retrouvent confrontés au fait que c'est une possibilité égale, et qu'ils peuvent soutenir l'un ou l'autre. Mais, au fond, soutenir la vérité ou soutenir la réalité a peu d'intérêt, puisqu'elle se soutient elle-même, alors que soutenir le mensonge, soutenir la fausseté, ou, disons une version plus douce, soutenir le possible, a peut-être plus d'intérêt. Parce que j'ai souvent cette idée que l'objet de la pensée, l'objet de la métaphysique, c'est le possible, pas le réel. La métaphysique n'est pas réaliste, parce que le possible a besoin de nous. Et qu'au fond, il y a quelque chose de presque de gratifiant dans le fait de penser le possible, c'est qu'on soutient son existence. Et en soutenant son... Alors qu'il y a quelque chose d'extrêmement peu gratifiant dans le fait d'être réaliste, de manière générale. Les gens réalistes, d'ailleurs, sont des gens qui se rendent dispensables. Être réaliste, c'est se rendre dispensable. Puisque c'est soutenir quelque chose qui n'a pas besoin de soi pour être soutenu. Le réaliste politique, le réaliste en épistémologie, est quelqu'un qui essaye de se rendre utile auprès de quelque chose qui n'a pas besoin de lui. Or, les personnages de la fiction sont des personnages qui, au fond, essayent de se rendre utile auprès du possible, de la fiction, du mensonge, de la croyance. Au fond, probablement pour se sentir utile, pour que simplement leur existence ait un sens. Ouais.
C'est un moteur, une ambition de faire de l'action, parce que sinon leur vie est vaine.
Oui, parce que sinon, strictement, tous, au fond, sont hantés par le réalisme, qui est ce moment de la pensée où on se trouve, dont on fait tous l'épreuve à un moment, ce moment de la pensée où on se trouve à devoir soutenir quelque chose qui n'a pas besoin de nous.
Merci Tristan Garcia.
C'est moi qui te remercie.